France Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Bérangère Bonte.
Bonsoir à tous. Le bail en HLM est-il un bail à vie? Le ministre du Logement, Guillaume Kasbarian, annonce en tout cas vouloir sortir les locataires qui ont largement déplacé le plafond de revenus. 8% des locataires, selon lui. C'est déjà prévu par la loi, lui répond notamment l'ancienne ministre Emmanuelle Coste. Est-ce une solution en tout cas pour désengorger ce secteur en tension? Comment booster aussi les nouvelles constructions? Au menu également, des informés ce soir, le MeToo des armées. C'est à l'agresseur de sortir du rang. Toute victime doit être écoutée et protégée, écrit Sébastien Lecornu dans une tribune au Monde. Il annonce une mission d'information et réclame la tolérance zéro. Quelle est l'ampleur du phénomène dans l'armée? On posera ces questions à l'expert militaire Pierre de Jong, qui restera d'ailleurs avec nous pour notre troisième sujet du jour, la menace iranienne sur Israël. La France recommande de ne plus se rendre dans plusieurs pays de la région. On parle de tout ça avec nos informés ce soir, qui sont Marie-Estelle Pêche, rédactrice en chef Société à Marianne, Arnaud Bouillin, rédacteur en chef du pôle L'économie à L'Express, et Véronique Reissoult, comme chaque vendredi, présidente de Backbone Consulting, maître de conférence en communication de crise à Sciences Po. Bonsoir et bienvenue à tous.
Bonsoir.
Bonsoir.
8% des locataires de l'HLM n'auraient donc rien à y faire parce que leurs revenus sont trop élevé. C'est le ministre délégué au logement, Guillaume Kasbarian, qui avance ce chiffre ce matin dans le journal Les Échos et qui souhaite que les bailleurs examinent régulièrement la situation financière de leurs locataires. Il dit vouloir mettre fin au logement social à vie, un concept qui fait hurler l'ancienne ministre du Logement, Emmanuelle Coste, qui préside aujourd'hui l'Union sociale pour l'habitat, une association représentative du secteur HLM. Et pour elle, la loi prévoit déjà de vérifier les revenus tous les ans. Écoutez.
Le ministre parle d'un bail à vie qui n'existe pas. Donc aujourd'hui, l'ensemble des locataires HLM doivent déclarer leurs revenus tous les ans. Au-delà d'un certain seuil, ils ne pourront plus rester dans le logement social. Il y a tous les gens, des gens qui en partent. Aujourd'hui, il y a 3% des ménages locataires qui peuvent être assujettis à ce qu'on appelle un complément de loyer, le surloyer, parce que les revenus dépasseraient d'un pourcentage de ce qui est demandé, en sachant que dans beaucoup de territoires, notamment au nom de la mixité sociale, l'État a demandé à ce que ça ne soit pas appliqué. Et ces personnes-là ont le droit de rester dans le logement HLM. On utilise cette expression « logement social à vie » pour faire polémique, alors que le gros sujet aujourd'hui, c'est qu'on ne construit pas assez de logements sociaux, qu'on n'a jamais eu autant de demandeurs et que la construction est en crise.
Arnaud Bouillin, en clair, le ministre annonce une mesure qui existe déjà.
Bah, c'est une vieille idée parce que là...
Et il le sait.
Il le sait, la recette existe déjà et depuis fort longtemps, comme l'a rappelé Emmanuelle Coste, depuis une loi de 2009, les locataires de HLM doivent répondre chaque année à une enquête ressources menée par les bailleurs sociaux pour connaître leur situation économique.
Ils le font ?
Ils le font.
Et globalement, c'est...
Ils le font et le bailleur peut, au vu des réponses qui sont données, majorer le bail en réclamant un surloyer. Ou bien, si les revenus du locataire sont supérieurs de 150%, deux années de suite au plafond, l'expulser. Alors évidemment, il y a des exceptions, les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes handicapées, et puis...
ces gens-là, on ne peut plus les
absolument.
Sortir après 65 ans.
De même que les locataires dans les quartiers populaires de la ville. Donc ce système de contrôle et de plafond, de barème, il existe déjà. Après, est-ce qu'il est efficace? Est-ce que les bailleurs sociaux appliquent la loi, font partir tous les locataires qui ne sont plus éligibles? Le gouvernement pense qu'on peut faire mieux, mais le problème, me semble-t-il, est un peu ailleurs.
C'est-à-dire ?
Dans la construction.
Oui.
Depuis 2020, on construit moins de 100 000 logements sociaux par an. Il en faudrait 20 à 30 % de plus. Et malheureusement, ce volume de construction va encore baisser dans les années qui viennent.
On va y revenir, mais Marie-Estelle Pêche, votre sentiment sur cette façon d'annoncer une mesure qui, disons-le, existe déjà ?
Oui, moi ce qui m'étonne surtout, c'est que ce chiffre-là qu'il sort, hein, de 8% de personnes qui occuperaient un logement HLM, alors qu'ils ont, en gros, ça signifie que leurs revenus sont supérieurs de 30% à ce qu'ils devraient être pour rester dans ces HLM. Mmh. Voilà. C'est un chiffre qui existait déjà en 2010, 2009, 2010, 2000, attendez, euh, non, je crois que c'est Julien de Normandie, en 2018, donc peu après l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron, donnait déjà ce chiffre, disant déjà exactement la même chose, qu'il fallait faire partir ces personnes pour les remplacer par des familles plus nécessiteuses, qui avaient des revenus inférieurs, etc. Donc c'est en plus, au sein même du gouvernement, c'est vraiment pas la première fois qu'on en parle. C'est un petit peu facile, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien fait depuis qu'ils sont au pouvoir sur ce sujet-là, et puis on remet une pièce dans la machine. Donc, parce que concrètement, quelles sont les solutions qu'il apporte, c'est pas très clair quand même.
Véronique Ressoul, juste dites-nous comment ça réagit autour de tout ça.
Déjà, le logement, c'est un sujet extrêmement important pour les Français. C'est d'ailleurs le seul ministère qui avait été réclamé par les Français quand il y a eu le remaniement.
Qui manquait dans le premier.
Il le réclamait à corps et à cri. En particulier parce que c'est un sujet de pouvoir d'achat et que c'est la première dépense des Français. Donc c'est un sujet éminemment important. Après, l'avantage d'annoncer quelque chose qui existe déjà, c'est que ça permet de rappeler que ça existe. Mais surtout, ça ouvre le débat. Et donc, il y avait effectivement les personnes âgées, les personnes handicapées, enfin âgées. De plus de 65 ans, les personnes handicapées. Eh bien, il y a beaucoup de demandes aussi, de gens qui disent, et pourquoi est-ce qu'on n'a pas quelque chose qui protège les familles monoparentales? On en a beaucoup parlé ces derniers temps. Ce sont des familles en grande précarité et pour qui c'est compliqué de se loger. Donc, on voit bien que, en relançant un sujet, vous ouvrez sur d'autres débats. Et après, il y avait deux autres sujets qui étaient très commentés aujourd'hui. Le premier, c'est que, ceux qui doivent sortir, c'est pas parce que vous avez un peu augmenté votre niveau de vie que vous êtes capable d'accéder au logement. Parce que les logements sont extrêmement chers et que c'est entre 15 et 20% en dessous des prix du marché, que les conditions pour accéder à l'achat, c'est encore plus compliqué, mais même à la location. Donc, il y a plein de témoignages qui étaient partagés sur des gens qui disaient, moi, mon enfant, il ne peut pas partir parce qu'il n'a pas accès. Donc, on voit bien, c'est compliqué, c'est cher. Et puis ensuite, vous parliez de la construction, mais les internautes, ils ont partagé beaucoup de photos pour dire, et l'état des logements sociaux, en disant, ah oui, mais il y a aussi ce sujet-là, les immeubles sans ascenseur,
pas seulement construire, mais entretenir.
Les gens qui sont handicapés et qui sont coincés en étage, qui peuvent pas utiliser l'ascenseur, donc ils sont enfermés chez eux. Donc bref, en lançant ce sujet, ça lance l'ensemble du sujet logements sociaux, et c'est un sujet qui concerne vraiment les Français.
Et les cas, oui, Marie-Sapel.
Ceci dit, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de turnover dans certains, on pense évidemment à des villes comme Paris, hein, parce que ce sujet-là, des gens qui gagneraient un peu plus, vraiment plus que la moyenne et qui resteraient quand même dans leurs logements sociaux, ça touche surtout des villes, des grandes villes comme Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, c'est pas partout hein, ce sujet qu'il met sur la table le ministre. Et je pense par exemple à ces familles qui ont 2-3 enfants, qui ont donc accès à un F4 ou un F5 en logement social. Les enfants grandissent, ils deviennent étudiants, ils partent du logement et malgré tout, le couple ou la veuve ou le veuf reste dans le logement qui est grand, qui est inoccupé, avec des chambres vides. Et ça, c'est vrai que c'est une réalité que l'on retrouve dans
donc
un certain nombre.
Donc ça, c'est pas seulement les revenus qu'il faudrait questionner, c'est pas mais que c'est la situation familiale.
Et on a l'impression que ces informations ne sont pas toujours bien recroisées, puisque visiblement, c'est possible de rester dans un logement social tout plus grand et de ne pas et de se sans, alors que normalement, ces données sont censées être recroisées.
20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
On parle logement social avec Arnaud Bouillin de l'Express, Marie-Estelle Pech de Marianne et Véronique Reissoul de Backbone Consulting. Je posais la question, problème de contrôle ou passe-droit Arnaud Bouillin.
Moi, j'ai le sentiment que les passe-droits, effectivement, il y a une dizaine d'années, on voyait surgir dans l'actualité des noms de personnalités publiques, politiques, élus qui occupaient des logements sociaux de manière visiblement indue. Les bailleurs, les régies publiques ont quand même fait, me semble-t-il, le ménage et en tout cas adopté des règlements internes qui font que ces histoires de passe-droit...
Ça s'est plutôt calmé
oui,
surtout grâce à la loi de 2009.
J'ai l'impression, oui.
Loi de 2009
qui permet effectivement de demander un surloyer aux personnes lorsqu'elles dépassent, quand leur salaire, leur revenu dépasse le plafond initial. Donc ça permet quand même de réguler un peu tout ça. Et puis c'est plus sérieux. Il y a l'histoire du piston politique, etc. pour l'attribution des HLM. Je ne dis pas que c'est fini, mais on a quand même même l'impression que ça s'est un peu plus régulé. On se souvient quand même de l'époque Tibéri, etc., à Paris. Enfin, c'était quand même incroyable.
Hein. Non, mais au-delà des cas emblématiques dont on a beaucoup parlé, il y a après, les logements un petit peu intermédiaires qui font partie des logements sociaux.
Oui. Et ça, je voulais justement revenir dessus.
C'est vrai dans une volonté
de mixité,
de mixité sociale qui est à peu près admise partout.
Réalité économique aussi. Les bailleurs, s'ils ne renvoient pas les locataires au-dessus des ressources, c'est aussi parce qu'ils payent plus facilement leur loyer. Vous avez des mauvais payeurs aussi. Plus on est précaire, plus on a des difficultés à payer ses loyers. Les gens qui ont un revenu supérieur, effectivement, ils sont plus fiables aussi d'un point de vue économique. C'est aussi pour ça peut-être qu'on ne les chasse pas aussi facilement. Il y a un problème, il y a une question de mixité sociale, de mixité scolaire, etc. C'est-à-dire que si vous ne mettez que des pauvres avec des pauvres dans des HLM, c'est quoi l'école à côté? C'est une petite bombe sociale. Enfin, il faut de la mixité. Ça reste nécessaire.
C'est ce que souligne Emmanuelle Cosse qu'on a entendu tout à l'heure quand elle dit l'État a demandé à ce que ça ne soit pas appliqué. C'est réellement le cas, ça?
À l'évidence de ce qui remonte du côté des bailleurs sociaux, oui, il y a 8000, c'est un vieux chiffre qui date de 2016-2017, mais il y aurait eu 8000 recommandés envoyés par l'ensemble des organismes HLM pour expulser des locataires qui à l'évidence n'étaient plus dans les clous. C'est très peu par rapport à la masse des 5,2 millions de logements sociaux qui existent aujourd'hui en France.
Et sachant qu'on a 2,6 millions de personnes qui attendent actuellement un logement social. C'est un record, c'est le record toute catégorie cette année.
C'est le point central du débat. Il y a un problème entre l'offre disponible et la demande. Le gouvernement essaie d'agir sur l'offre, faute d'avoir pu répondre à la demande. Et en quelque sorte, il cherche à mieux organiser la pénurie. Ce qui est déjà en soi un peu un constat d'impuissance vis-à-vis de ce sujet.
Alors la construction, vous en parliez à l'instant, là, elle était censée être aussi boostée par cette loi SRU dont on parle souvent, cette obligation pour les communes de construire 20 ou 25% de logements sociaux, faute de quoi ils sont sanctionnés. Le bilan a été rendu hier pour 2020-2022. 70% des communes ne respectent pas ça. Ça fait quoi? 240 millions de sanctions qui sont destinées, sont fléchées construction. Donc ça devrait, pour le coup, booster.
C'est vrai, sauf que dans le même temps, vous avez deux phénomènes qui viennent percuter là, cette dynamique de construction. La nécessité pour les bailleurs aujourd'hui de rénover les logements, du fait des nouvelles normes environnementales et thermiques qui s'appliquent sur les appartements. Et puis, dans un second temps, vous avez un contexte macroéconomique qui fait que les bailleurs sociaux, ils sont financés par l'épargne des Français, notamment par les milliards d'euros qui sont versés sur le livret A. C'est la Caisse des dépôts qui leur prête cet argent pour construire des immeubles. Or, aujourd'hui, avec le niveau de taux d'intérêt qu'on connaît, et le fait que le livret A soit à 3%, les bailleurs, ils s'endettent beaucoup, ils s'endettent cher, et ils n'ont plus les mêmes marges de manœuvre pour déployer les plans de construction qu'on a pu connaître les années précédentes, et en même temps, rénover les logements. Donc, et puis vous rajoutez là-dessus l'inflation sur la hausse des matériaux de construction, des coûts de construction, le marché de la construction, mais du parc social comme du parc privé, est complètement à l'arrêt aujourd'hui en France.
C'est pour ça que je vous disais que c'est un des sujets de préoccupation majeurs des Français, qu'ils en parlent tout le temps, qu'ils témoignent beaucoup, c'est le marché globalement, il est en tension. Donc il est en tension sur les logements sociaux, d'où les 2,6 millions de personnes qui attendent en 2023, mais globalement sur l'ensemble des sujets du logement, on est en panne et les Français attendent des solutions et sont extrêmement tendus sur le sujet. Et sans parler du fait que les logements sociaux liés, dans des petites villes, il y a aussi souvent des frondes, c'est compliqué à mettre en place. Les uns et les autres disent déjà entretenez le parc qui existe, répondez à la réalité de ce qu'on attend. Donc en fait, c'est un marché compliqué, en tension, et les uns et les autres l'avaient vu venir depuis longtemps, et on a l'impression que là, ça sort maintenant, mais en réalité, ça fait un moment que ça montait.
Alors précisément, il y a manifestement une volonté de désengorger et de régler cette question de ce secteur. Est-ce que c'est de nature là, il y a une série d'annonces du gouvernement, et notamment cette volonté de faire appliquer la vérification des revenus et de sortir les locataires. Ça, c'est de nature, selon vous, à régler une partie du problème?
À la marge, oui, sans doute, un peu, mais vraiment très marginalement, comme on le disait tout à l'heure.
Dans un contexte économique difficile, elle est où la clé pour vous?
Comment?
Où est la clé pour vous?
La construction. Il faut construire davantage. C'est essentiellement ça, non?
Oui. Il faut construire davantage pour pouvoir répondre à la demande des ménages.
Et pas que dans les logements sociaux. Il faut construire dans le privé, il faut construire dans les logements sociaux, il faut construire partout où on peut construire. En plus, on est dans une société qui a d'autant plus besoin de logements que socialement, le visage des familles a changé. Enfin, vous avez de plus en plus, effectivement, de familles monoparentales, de couples divorcés. Donc, on a encore plus besoin de logements.
C'est pour ça que c'est exponentiel en réalité. Dans les critères qui étaient demandés, qu'on voyait là, qui n'existent pas aujourd'hui, qui est le critère d'une famille monoparentale, elle doit être plus protégée. En tout cas, c'est demandé fortement. C'était juste pour vous dire que, bien sûr, l'expression sur les réseaux sociaux ne veut pas dire qu'on sait tout. Mais en règle générale, quand vous avez des choses des éléments qui choquent énormément, bien vous avez toujours des gens qui viennent témoigner et qui pointent et qui disent « Ah oui, je connais à côté quelqu'un qui gagne très bien sa vie, qui est dans un logement social. »
Mais on connaît tous, c'est facile.
Mais on n'en voyait pas tant que ça dans les messages. Les trois quarts des messages qu'on pouvait lire étaient plutôt des messages en disant « Mais moi j'en ai besoin, c'est pas si simple que ça. » Le fait d'avoir été un peu augmenté ou d'avoir eu des heures supplémentaires et avoir un peu mon revenu qui a augmenté, on m'a demandé de payer plus, c'est normal. Mais pour autant, je ne suis pas capable de trouver un logement à côté, donc non, ne me sortez pas ainsi. Donc, en fait, on sent bien que ce n'est pas un sujet d'injustice pour les Français, même ceux qui ne sont pas dans les logements sociaux. C'est plus un sujet global d'inquiétude qu'est le logement.
Je voudrais qu'on dise juste un mot, Arnaud Bouillain, d'une des propositions qui est faite par le gouvernement, qui est d'inclure dans ces fameux calculs de la loi SRU, de ces logements sociaux, des logements un peu intermédiaires, et on retrouve la patte de Gabriel Attal et les classes moyennes auxquelles il est tant attaché. Essayons d'expliquer simplement ce que ça peut changer dans l'équilibre financier et pourquoi pas pour régler ce problème de ce secteur en tension du logement social.
Alors, je ne sais pas si ça le réglera. En tout cas, effectivement, il y a la volonté qui a été affirmée par Gabriel Attal et qui est reprise par le ministre Guillaume Kasbarian, de permettre à des Français situés dans la classe moyenne de pouvoir se porter candidat à des logements dans le parc social, mais avec évidemment des niveaux de plafond de ressources différents.
Et surtout, pardon, je vous coupe, mais que les communes puissent faire valoir ces logements-là intermédiaires dans le calcul de la loi SRU.
Absolument. C'est la subtilité.
Ce qui fait d'ailleurs hurler pas mal de communes.
C'est la subtilité, c'est de permettre à des communes qui jusqu'ici entre guillemets freiner des quatre fers pour construire des parcs sociaux et donc accepter de payer les amendes qui sont infligées aux communes qui ne respectent pas la loi, de se dire je prends ma part puisque je construis des logements destinés à cette catégorie de population.
D'accord, c'est une construction. Donc, après, c'est une autre façon de booster une d'autres constructions.
Oui.
C'est aussi un discours qu'on entend souvent, c'est-à-dire qu'il faut penser aux enseignants, aux infirmières, etc., etc. Depuis la crise sanitaire, on entend souvent pour qu'ils aient de la place dans les logements sociaux, qu'ils puissent avoir accès à leur travail, être à proximité de leur travail. C'est un discours un peu qu'on entend très régulièrement, mais qui n'a pas l'air de donner grand-chose pour l'instant.
20h, 21h, France Info, les informés. Bérangère Bonte.
En compagnie ce soir de Véronique Ressoux, Backbone Consulting, Arnaud Bouillain de L'Express et Marie-Estelle Pêche de Marianne. Tolérance zéro pour les agresseurs sexuels présumés dans l'armée. Les mots sont du ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, et de la secrétaire d'État aux anciens combattants, Patricia Mirallès. Ils co-signent une tribune dans le journal Le Monde et lancent donc une mission d'information et de protection des victimes et de sanction des agresseurs. Les deux ministres se disent révulsés, c'est le mot, par les témoignages qui affluent depuis deux mois, et notamment celui très médiatisé de la jeune Manon Dubois qu'on va écouter, engagée dans la marine à 18 ans, en 2019, comme cuisinière sur un navire de la marine, le début d'un enfer à cause d'un agresseur, un autre marin, 60 agressions jusqu'en 2022.
M'enfermer dans ma cuisine et poser sur le plan de travail, il collait son sexe contre le mien et toucher les parties qu'il ne faut pas toucher sur une femme, clairement. Et qui me disait que j'étais sa chose et que je lui appartiendrais toujours. Je réagissais pas ni à l'attaque ni à la fuite, je figeais, je me détachais. Bah, c'était toute ma vie que j'ai pas pu continuer à cause d'un homme comme ça. J'ai pas pu aller là où je voulais. Oui, ça me peine parce que ça me manque en soi. Militaire un jour, militaire toujours.
Voilà, cette militaire sortie de l'armée, témoignage recueilli par France Télévisions. Bonsoir Pierre de Jong. Bonsoir à vous, ancien colonel des troupes de marine. Je précise que vous êtes vice-président de l'Institut Témis, dédié aux problématiques de paix et de sécurité. Rien à voir avec Témis, la cellule d'écoute qui porte le même nom, cellule d'écoute sur les violences sexistes et sexuelles, justement mise en place il y a une dizaine d'années par Jean-Yves Le Drian, et que la mission d'information annoncée aujourd'hui va devoir expertiser, on va dire. Alors, ce cas précis de Manon Dubois, Pierre de Jong, rassemble, j'ai envie de dire, à lui tout seul, tout ce qui ne va pas dans la façon dont l'armée gère ses affaires. Je ne sais pas si vous serez d'accord, mais l'agresseur a reconnu les faits. Il a écopé de 10 jours de suspension. Cette jeune femme a été obligée de finir la mission à bord. On lui a demandé simplement de changer de chambre, mais tous les soirs, pendant 10 jours, elle a continué à aller lui servir son repas. Et elle quitte finalement la marine, qu'elle adorait. Lui, la justice le condamne en décembre dernier à 600 euros de dommages et intérêts, plus un stage à ses frais. Des cas comme celui-là, y en a-t-il beaucoup dans l'armée, selon vous ?
Alors, c'est très difficile à dire, parce que vous savez, l'armée, c'est la grande muette. Donc, en fait, l'information ne sort pas facilement. En tout cas, la mécanique hiérarchique fait qu'il y a des difficultés, peut-être, pour rendre compte et pour faire remonter l'information. Ceci étant dit, c'est vrai que c'est un grand choc. Je sais que les armées ont pris ça en main. Je sais que le ministre lui-même, il a vraiment pris les affaires en main, parce que le nombre de cas, le nombre de témoignages qui remontent sur la plateforme Témis, que vous évoquiez à l'instant...
700, oui.
Qui a été créé en 2014, qui est destiné en fait à deux choses. Un, à garantir entre guillemets les intérêts de ceux qui ont quelque chose à dire, parce que ça concerne non seulement les agressions sexuelles, mais ça concerne également tout ce qui est comportement particulier par rapport aux minorités, etc. Et puis le deuxième point, ça garantit au ministre théoriquement d'avoir une information. Donc théoriquement, ça garantit des deux côtés. Bon, visiblement, le système ne fonctionne pas aussi bien qu'il faudrait. Et donc encore une fois, c'est vrai que l'afflux, ce MeToo militaire que vous évoquez à l'instant, c'est une très grande surprise pour la plupart des militaires, parce que vous savez, ce genre d'affaires sont cachées, elles ne sont pas connues de tous, et d'une façon générale, encore une fois, c'est inconnu, c'est ce que je voulais vous dire, c'est pas visible, et c'est extrêmement difficile, si vous voulez, à obtenir une bonne information.
Vous avez quitté le service dans l'armée à la fin des années 90, je crois, donc ça remonte quand même un bout de temps, c'est bien ça ?
J'ai quitté en 2000, mais c'était le début de la féminisation des armées. Et je sais que dans les régiments, c'était compliqué, parce que il y a des jeunes femmes qui arrivaient, et dans les régiments d'infanterie de marine, ils sont pas particulièrement, si vous voulez, sans dire le mot fin, mais je veux dire que c'est comme des combattants, ce sont des soldats, c'est vrai. Et donc, il y a un acclimatement à faire pour le personnel, pour se comprendre. Ceci étant dit, il y avait des séparations, et on essayait de surveiller, mais elles étaient très peu nombreuses, parce que, à l'époque, elles étaient dans un régiment d'infanterie, elles étaient peut-être une vingtaine ou une trentaine. Et très rapidement, on monte dans certains régiments à des effectifs, genre de 10 ou 15% sont des femmes.
Mais vous voyez, on va, et je ne vous jette pas la pierre, hein, mais quand vous dites qu'il y a des mots pas fins, etc. Anne Genetet, qui est membre de la commission de la défense de l'Assemblée, qui était tout à l'heure l'invitée de France Info, disait qu'il n'y a pas de petits, de gros, de mots ou quoi. Il y a un comportement, des agressions qui prennent différentes formes, mais toutes sont graves. Et les 700 témoignages qu'il y a eu à la cellule Témis, comment on peut expliquer, et je pose la question aussi aux informés, que ça n'est pas généré, le commandement de l'armée savait qu'il y en a eu, il y a eu une cinquantaine de sanctions prononcées sur les 700. Comment on explique où est-ce que ça coinçait?
Je pense que c'est très difficile, vous savez, pour les subordonnés, entre guillemets, c'est comme ça qu'on dit dans l'armée, les subordonnés, c'est très compliqué, que vous avez un poids hiérarchique, le regard de l'autre. Après, il y a également les mutations, les décorations, il y a tout un environnement qui fait qu'il y a une espèce de poids. Alors, quand il est accepté, quand ça fonctionne bien, quand les gens sont normaux, entre guillemets, ça pose pas de problème. Bien évidemment, dès lors qu'il y a des comportements, des comportements inadmissibles, évidemment, ça se sait pas, ça reste dans l'intimité. Et c'est très difficile, et je pense que l'armée doit travailler sur le sujet. pour effectivement favoriser, si vous voulez, le compte-rendu pour que ça remonte. Et la hiérarchie, effectivement, doit le prendre en compte. Maintenant, encore une fois, les gens sont justiciables, ils doivent rentrer dans un cadre de justice, il faut le calibrer comme ça. Je pense qu'il y a un deuxième point qui est très important.
Alors, on va y revenir après le point sur l'info. Juste, Maria Stelpech, vous voulez réagir et puis je reviens vers vous après le point sur l'info, Pierre de Jong.
On a l'impression que dans l'armée, c'est la deuxième étape. La première étape, c'était dans les années 2000. Au début des années 2000, on a commencé à parler des affaires de bizutage, qui ont toujours été très nombreuses, en fait, dans l'armée, que ce soit dans la formation des Saint-Syriens, etc. Et on a eu une libération de la parole sur les bizutages entre militaires, ce qui ne concernait pas forcément des femmes. D'ailleurs, il y avait encore assez peu de femmes à ce moment-là. Et là, ça commence, effectivement, on commence à parler un peu après toutes les autres catégories, quand même, hein, parce que l'armée, c'est après tout ce qui s'est passé dans le cinéma, dans l'éducation.
2017, voilà. L'affaire Weinstein.
Ça réagit un peu à retardement, quand même, si je puis me permettre.
20h, 21h, France Info, les informés. Bérangère Bonte.
On parle du MeToo dans les armées avec Maria Stelpech de Marianne Arnaud-Bouillien de l'Express, Véronique Ressoul de Backbone Consulting et Pierre de Jong, l'expert militaire qui nous fait la gentillesse de parler de ce sujet. Et je le souligne parce que on va le dire clairement, hein, et ça se bousculait pas quand même, hein, aujourd'hui pour parler de ce sujet qui est complexe. Évidemment, Véronique Ressoul, vous vouliez rebondir sur ce qu'on disait juste avant la pause.
Le sujet MeToo, on l'a dit, a mis longtemps à sortir et c'est un phénomène général. C'est un phénomène qui a fait vraiment évoluer les mentalités. C'est même peut-être l'un des rares cas où les réseaux sociaux, pour une fois, ne sont pas décriés parce qu'ils ont permis de faire changer les choses et aux uns et aux autres de s'exprimer. Mais on voit bien que là, le sujet, il est aussi un sujet culturel parce que globalement, voilà, non, c'est pas être un peu pas léger quand on viole quelqu'un. Donc c'est des sujets qui sont extrêmement lourd. Les commentaires des uns et des autres sont assez effarés, non seulement sur le sujet MeToo en soi, mais surtout sur le fait que le silence est terrible, mais que les victimes sont les condamnées dans le cas présent. Parce que dans tous les témoignages qu'il y a, il y a toujours le fait que c'est la victime qui doit partir. On le voit dans le témoignage de cette jeune femme. Que les victimes, quand elles commencent à parler, on leur explique qu'elles ne sont pas adaptées au système. On les déclare inaptes et elles doivent partir.
Et qu'on va quand même attendant, pas... On va quand même pas embêter ce fameux gars se grader pour une affaire aussi peu importante.
Et qu'en plus, il y a une donnée qui n'est pas dans les autres métiers ou en tout cas dans les autres corporations qui sont aujourd'hui pointées, c'est qu'on dit oui, mais bon, c'est un bon soldat. Oui, sans doute, peut-être. En fait, c'était pas tellement le sujet. Et donc, ce côté double peine, c'est sans doute ce qui étonne le plus parce que c'est vrai que sur les réseaux, c'est globalement des gens qui ne font pas partie de l'armée, donc qui sont étonnés, qui découvrent le sujet. Et le côté une victime qui est condamnée, qui doit partir, les agresseurs restent. Quand elles restent sur place, elles sont mises à l'écart, quoi qu'il arrive. Il y a eu beaucoup de témoignages de jeunes femmes qui disaient, ben voilà, après, plus personne ne veut vous parler, on ne déjeune même plus avec vous. Vous êtes, enfin voilà. Donc, ce côté mis à l'écart. Donc, le sujet MeToo en soi, il mobilise tout le monde, il mobilise sur toutes les corporations et on va dire que les témoignages et le courage de sortir et de sortir de son silence, les réseaux sociaux vous aident. Mais dans le cas présent, cette double peine, c'est sans doute ça qui est quand même très particulier, de se dire que non seulement vous êtes victime, mais vous êtes condamné et vous perdez tout.
Alors, c'est un des aspects qui est souligné dans la tribune des deux ministres, Arnaud Bouillien. Qu'est-ce qui vous frappe, vous? Quels sont les points vraiment marquants dans la bouche ou plutôt sous la plume d'un ministre de la Défense qui s'attaque, qui donne l'impression réellement de vouloir s'attaquer au sujet, en tout cas.
Moi, je constate une chose, c'est que la création de la cellule Thémis, elle est intervenue en 2014, après la parution d'un livre écrit par deux journalistes qui s'appelait « La guerre invisible » et qui levait le voile déjà à l'époque sur ces pratiques-là et qui était nourri de beaucoup de témoignages. Et c'est en réaction à la sortie de ce livre et l'effervescence qu'il a créée dans l'armée, que Jean-Yves Le Drian avait créé la cellule Thémis.
Vous voulez dire que depuis le temps, 10 ans sont écoulés
Alors, qu'il faille faire un bilan aujourd'hui de cette cellule, comme Sébastien Lecornu a annoncé vouloir le faire, c'est très bien. Mais là encore, pourquoi le ministre réagit? C'est parce qu'il y a une députée Renaissance, Laetitia Saint-Paul, donc de sa propre majorité, qui est montée au créneau, qui a un profil... assez étonnant à l'Assemblée nationale, elle est officier de l'armée de terre, elle est passée par Saint-Cyr, donc elle a une voix qui porte sur ces sujets-là.
C'est la seule militaire sur les bancs de l'Assemblée.
Voilà.
Et c'est
parce qu'elle a apporté son soutien public aussi à la victime dont vous avez passé le témoignage tout à l'heure que Le ministre réagit, commande cet audit, passe une instruction qui, pour le coup, est très claire. Hein. Il y a un texte qui a été diffusé sur la conduite à tenir au sein des armées et qui enjoint les hiérarchies à suspendre un agent ou un militaire qui serait mis en cause en cas de suspicion de viol ou d'agression sexuelle. Donc c'est très bien. Mais encore une fois, c'est en réaction.
Elle est plutôt satisfaite, Laetitia Saint-Paul. On va l'écouter cet après-midi sur France Info.
La Grande Muette porte bien son nom et sur ce sujet, elle a même été aveugle. Ce qui est parfaitement décrit dans la tribune du ministre, c'est qu'elles n'ont pas été écoutées, elles n'ont pas été protégées. Et elles ont été mises en arrêt maladie, puisque nécessairement, comme on est militaire, on porte une arme, et comme il y a un risque de suicide, eh bien, elles sont mises en arrêt maladie et évincées de l'institution. J'ai été confrontée en tant que chef militaire, puisque j'ai eu sous mes ordres un cadre qui a agressé une de mes jeunes engagées, et j'ai découvert à la gendarmerie qu'il n'en était pas à son coup d'essai. Et ensuite, j'ai été confrontée aussi en tant que députée parce qu'à peu près une fois par an, un témoignage analogue à celui de Manon Dubois atterrissait sur mon bureau comme j'étais identifiée comme la militaire de l'Assemblée.
Voilà, Pierre Deuillon, je rappelle que vous êtes ancien colonel des troupes de marine. Est-ce que vous, depuis ces derniers mois ou peut-être ces dernières années, compte tenu du fait que vous êtes sorti maintenant, vous avez reçu, comme cette députée, des témoignages, des gens qui vous ont contacté pour essayer de faire remonter des cas?
Non, absolument jamais. Même si je suis encore très proche de mon régiment et des forces armées, puisque je travaille dans le secteur, donc je connais vraiment bien le système. Maintenant, ce qui se passe, c'est que c'est vrai que le MeToo qui était mis en place aux États-Unis et qui a déferlé sur l'Europe, a interrogé. Moi, je me rappelle très bien des discussions avec des camarades, etc. Et on s'interrogeait justement sur un MeToo militaire, puisqu'il préexistait, puisqu'en 2014, comme vous venez de le dire, la plateforme Temis a été mise en place après un scandale qui avait été révélé. Donc c'est vrai, c'est un débat qui a eu, et souvent les officiers en parlent, mais c'est vrai que c'est extrêmement difficile d'extraire, si vous voulez, l'information, d'avoir la bonne information. On voit très bien que l'information, elle peut circuler, parce que la plateforme Temis est une plateforme de grande liberté, il suffit simplement de signaler. Le problème, c'est le traitement de la faute, quelque part. Et là, on voit que c'est pas fait correctement, et concrètement, il n'y a pas d'accompagnement des victimes. Et ça, c'est parfaitement surprenant, et là, je pense qu'il y a une réforme à faire, et je pense que l'armée va le faire, parce que ce que j'en sais depuis quelques jours et quelques semaines, puisque ça tourne beaucoup dans les casernes, entre guillemets, je sais que l'état-major et je sais que le ministère des Armées est extrêmement mobilisé sur le sujet. Et donc, il y a des discussions, il y a des réunions, l'inspection générale des armées...
Ils en disent quoi, justement, les gens, les interlocuteurs avec qui vous avez pu échanger, ça met un peu tout le monde en panique, ou est-ce que... Ouais, comment ça réagit?
Non, alors écoutez, de façon assez simple, hein, je pense que tous ceux que je rencontre, et Dieu sait si je rencontre, considèrent qu'il faut traiter le sujet. On ne peut pas garder un sujet comme ça en disant on va l'étouffer. Je pense que la hiérarchie, d'une façon générale, comme le ministre d'ailleurs, si vous voulez, l'objectif n'est pas d'éteindre l'incendie. L'objectif est de savoir ce qui se passe et puis que les victimes soient préservées, en tout cas, elles soient protégées d'une façon ou d'une autre. Et puis les coupables, il y a un jugement à mettre en place, et c'est vrai qu'il y a des mesures de précaution à avoir. Je prends l'exemple sur un bateau, par exemple, quand il part, il va partir pendant un mois ou deux mois. C'est sûr que quand le gars, il a une fonction éminente, ben, il faut pouvoir le relever, le rapatrier en France. Et puis, vous savez, en Afrique, on appelle ça le vol bleu.
Mais ça va être le cas, c'est ce que dit Sébastien Lecornu. Désormais, on éloigne la personne mise en cause de sa victime présumée. On suspend immédiatement, en cas de caractère, quand il y a un caractère suffisant de vraisemblance. Toute la question est de savoir comment on évalue. Et comment les militaires vont pouvoir évaluer le caractère suffisant de vraisemblance? Ils sont prêts à ça, dans ce qu'ils vous ont dit? À suspendre immédiatement?
Mais bien évidemment, mais vous savez que le système militaire est connecté avec la gendarmerie. Donc, si vous voulez, dès qu'il y a des affaires de drogue, etc., la gendarmerie rentre dans les casernes, rentre sur les bateaux et peut enquêter. Donc, encore une fois, il suffit simplement de mettre en place la mécanique pour que ça se passe normalement. Alors, c'est vrai qu'un bateau, c'est très particulier. Un sous-marin, c'est très particulier. Donc, c'est vrai que là, le commandement doit être capable d'avoir une espèce de, comment dire, d'appréciation la plus saine possible. Je dirais presque une appréciation de père de famille et de considérer ce qui se passe exactement. Alors, sur un sous-marin, on va pas le faire remonter. on va séparer, on va traiter ça. Encore une fois, je pense que ce qui est terrible, si vous voulez, c'est le fait que les victimes ne soient pas écoutées et qu'il n'y ait pas de traitement et de traitement de la faute. En tout cas, pas suffisamment. Donc on voit qu'il y a un véritable travail à faire, un travail d'information, mais vraiment réel. Parce que vous savez, le monde militaire, c'est un monde où il y a ben, évidemment beaucoup d'hommes, principalement sont des hommes, je dirais 80-90% des unités sont des hommes, et c'est vrai que ça fonctionne, seul, ça fonctionne, les hommes fonctionnent ensemble, parce qu'il y a une espèce de système masculin quelque part. Et c'est que les femmes, il faut leur trouver la place,
féminiser davantage,
il faut
alors.
Les protéger. Pardon ?
Peut-être qu'il faut féminiser et équilibrer davantage.
Oui, mais en même temps, dans les fonctions, c'est un régiment d'infanterie, avoir que des femmes, ça finirait par poser problème, peut-être faire que des unités que de femmes. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut vraiment trouver la solution, et il faut la trouver la solution, non pas en tant que militaire, mais en tant que citoyen et en tant que père de famille.
Absolument.
20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
En compagnie ce soir de Arnaud Bouillin de L'Express, Marie-Estelle Pêche de Marianne, Véronique Ressoul de Backbone Consulting et l'ancien colonel des troupes de marine, Pierre Deuillon. Vous parliez du citoyen, Pierre Deuillon. Effectivement, plus globalement, c'est frappant de voir que chaque secteur fait son MeToo. L'affaire Weinstein, c'est 2017. On se demande un peu combien de temps il va falloir. Je vois là à l'instant que le ministre de la Santé, Frédéric Valletoux, annonce qu'il va réunir les associations, les employeurs et les professionnels de santé suite à la mise en cause de l'urgentiste Patrick Peloux. Donc là, on est à l'hôpital. Comment expliquer que ce mouvement soit à ce point sectorisé et qu'on arrive pas à dézoomer un peu?
C'est très étonnant et on a l'impression d'un jeu de domino, c'est-à-dire que toutes les semaines ou tous les mois, on a un nouveau secteur dont les gens commencent à s'exprimer, les femmes en l'occurrence commencent à s'exprimer en disant bah, nous ça va pas, on se fait agresser, on n'a pas de réponse de l'employeur, etc. etc. Et c'est assez étonnant effectivement puisque MeToo ça date de 2017, l'événement MeToo aux États-Unis. On est quand même maintenant plusieurs années après, quasiment 7 ans, et on a encore des secteurs qui sont pas passés par les fourches caudines des médias et de cette espèce de déballement public. Alors, après, cela dit, est-ce que ça fait véritablement avancer les choses d'ailleurs quand on a ce déballement public? Est-ce que les victimes sont davantage écoutées, par la justice lorsqu'elles vont déposer plainte? Ça reste à voir aussi, ça. Parce que les mises en examen, le résultat final d'un point de vue judiciaire n'est pas forcément à la hauteur du déballement médiatique.
Non, parce qu'il est énormément plus grave.
Une question de présomption d'innocence quand même qui.
Oui, mais il y a une réalité qui est que quand même ce mouvement MeToo, il a changé énormément les choses. Il a permis à énormément de victimes de sortir de leur isolement. Pour vous donner une idée quand même, le nombre de messages qu'il y a eu avec juste le hashtag MeToo, et donc il y a aussi des affaires qui sont sorties sans ce hashtag en soi et qui parlent globalement de victimes, on est à plus de 75 millions de messages. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, quand il y a MeToo, il y a la dénonciation d'une situation. Donc oui, d'aider les uns et les autres à sortir du silence, ça a été bénéfique. Et oui, ça a permis de pointer des situations comme celle qu'on vient d'évoquer dans l'armée. C'est une réalité qui est... Ça force les uns et les autres à regarder le sujet. Après, qu'il y ait énormément de progrès à faire, oui, bien sûr. Qu'il y ait des dérives par moment et un excès de dénonciation sans preuve, voilà. Mais on voit bien que c'est compliqué. C'est sans doute d'ailleurs ça le sujet pour l'armée. Mais globalement, oui, ça fait changer des choses. Il n'y a pas beaucoup de mouvements qui ont été issus de la société civile à ce point-là qui ont fait changer des situations.
Bon, et en tout cas, l'inspection générale des armées a jusqu'à fin mai, donc ça fait à peu près 6 semaines, pour mener cette mission d'information et faire des préconisations en regardant aussi ce qui se fait à l'étranger et en regardant la façon dont l'armée gère ses différentes affaires. Colonel Pierre Deuillon, je ne sais pas si on doit toujours vous appeler colonel quand on est ancien colonel d'ailleurs. Je profite de que vous soyez avec nous pour aborder notre troisième sujet également. La France, le ministère des Affaires étrangères demande aux Français de ne pas se rendre en Iran, en Israël, mais aussi au Liban et dans les territoires palestiniens. Cela veut dire sans doute que la France partage la crainte des Américains que l'Iran attaque Israël en représailles à l'attaque du 1er avril contre son consulat en Syrie. C'est une menace plausible, dit la Maison-Blanche. Est-ce que vous le pensez aussi ?
Alors c'est un vrai sujet parce qu'on voit bien que il y a eu un attentat. Enfin, les Israéliens auraient bombardé parce que ça n'a pas été revendiqué. Ont bombardé le consulat de l'Iran à Damas. Il y a eu 16 morts, dont cette autorité, si vous voulez, des gardiens de la révolution. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Iran est tenu à cause de cet attentat, mais aussi par le fait qu'elle a communiqué dessus. Elle est tenue. Elle a déclaré qu'elle allait se venger d'une façon ou d'une autre. Donc cette vengeance, elle est là. Il y a un énorme point d'interrogation. Les Américains, avant-hier, ont annoncé, si vous voulez, que les Iraniens allaient lancer une opération de rétorsion massive. Alors, on voit bien que le mot massif, déjà, est un mot peut-être un peu exagéré, mais c'est un mot qui signifie quelque chose. Donc, en fait, par mesure de précaution, l'ensemble des ambassades, je dirais, européennes, parce qu'il n'y a pas que les Français, ont décidé qu'on devait impérativement limiter les déplacements en Israël, au Liban, en Iran et bien sûr dans les territoires palestiniens.
Les Iraniens, le chef d'état-major des forces armées dit l'opération sera menée au bon moment, avec la précision et la planification nécessaires et avec un maximum de dégâts pour l'ennemi. Il s'adresse à qui évidemment, c'est une menace pour Israël, mais est-ce que c'est aussi un message aux alliés d'Israël? Est-ce que c'est une menace à ses propres alliés pour qu'éventuellement ils puissent s'en prendre à des intérêts israéliens? Essayons de décrypter ça, si vous voulez bien.
C'est difficile parce que vous savez, le gouvernement iranien est un gouvernement qui est difficile à interpréter parfois. C'est vrai que c'est un gouvernement qui est qui est rejeté par la population. L'opinion publique iranienne n'est pas du tout pour le mode de fonctionnement qui est actuellement retenu. Le deuxième point, si vous voulez, c'est que l'armée iranienne est une armée qui est, je dirais, entre guillemets, obsolète, des vieux avions, etc. Par contre, ils développent un programme nucléaire, c'est le premier point. Et le deuxième point, ils sont performants dans le domaine des drones et des missiles. Encore une fois, le quatrième point, c'est qu'ils ont une espèce de force armée qu'on peut qualifier de proxy, qui est actuellement au sud du Liban avec le Hezbollah. Donc ils ont toute une série de possibilités pour agir contre Israël. On voit bien qu'aujourd'hui, l'autre sujet pour les Iraniens, c'est quoi? C'est que les Américains ont clairement dit qu'ils interdiraient d'une façon ou d'une autre, en tout cas ils défendraient coûte que coûte, si vous voulez, l'État d'Israël. Pour Israël, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque vous savez qu'il y a quelques jours, à l'occasion d'un vote aux Nations Unies, les Américains avaient voté neutre, entre guillemets, avaient voté blanc. Donc c'est la première fois que les Américains le faisaient. Et là, dans cette opération-là, on voit que les Américains ont décidé, très concrètement si vous voulez, d'apporter un soutien massif à Israël. Et ça, les Iraniens ne peuvent pas l'écarter d'un trait de plume. Donc dans le rapport de force, quelque part, c'est pas les plus forts. Donc il est probable qu'ils soient obligés, les Iraniens soient obligés de mener une opération de rétorsion contre Israël, mais on peut imaginer qu'elle sera localisée sur une base militaire ou éventuellement une enclave diplomatique.
Merci beaucoup Pierre Deuillon. Je rappelle donc l'Institut Témis, dont vous êtes le vice-président. Merci d'avoir été en direct sur France Info dans Les Informés. Maria Selpech, avant le Fi Info.
Oui, une attaque directe depuis l'Iran, c'est ce qui fait le plus peur, mais c'est pas forcément effectivement ce qui paraît le plus probable. D'ailleurs, il y avait des sources qui s'exprimaient j'ai regardé Reuters l'autre jour et qui disaient le chef de la diplomatie de Téhéran lui-même qui a dit que la réponse de son pays n'aurait pas pour conséquence une escalade des tensions et que Téhéran hâterait pas de riposter à l'attaque israélienne à Damas. On imagine plus une riposte, effectivement, soit économique, soit avec le Hezbollah, tous les alliés de l'Iran. Il peut s'appuyer sur pas mal de monde. On peut imaginer...
C'est pas les mots qui sont prononcés par le chef d'état-major iranien. Alors, est-ce qu'il y a une part de bluff? Est-ce qu'il y a une part de...
Mais d'intox? Je pense aussi qu'il s'adresse à sa population intérieure. L'Iran, c'est un régime qui n'a que la guerre comme horizon. Et la plupart du temps, si possible, chez les autres. Et donc, pour garder la main, pour montrer qu'il est puissant, il doit convaincre sa population qu'il est capable de mener des opérations d'envergure contre l'ennemi israélien. Alors qu'en réalité, le pays est au bord du gouffre financier, que l'inflation est galopante, que la population s'appauvrit de jour en jour et que la seule réponse qu'il donne à cette colère sociale, ce sont des arrestations et des exécutions comme on le voit depuis 2 ans.
20h, 21h, France Info, les informés. Bérangère Bonte.
On parle de cette tension accrue entre Israël et l'Iran avec Maria Selpech, rédactrice en chef société à Marianne, Arnaud Bouillard, rédactrice en chef du pôle économie à l'Express, et Véronique Ressoul, présidente de Backbone Consulting, avec toujours un œil sur les réseaux sociaux. Comment c'est, alors, je ne sais pas ce que vous pouvez nous en dire, évidemment, des réseaux là-bas et ici aussi.
Alors, ce qui était assez étonnant, c'est que c'est un sujet qui... ce conflit continue à générer beaucoup de messages. Pour vous donner une idée, il y a entre 3 et 5 000 messages par jour, ce qui en soi est quand même assez conséquent.
Là, on parle des messages en France, on arrive à identifier
ces... Oui, en France, oui. Et là, il y a eu à peu près 12 000 sur la semaine. Donc voilà, globalement, c'est un sujet. Mais quand je regardais si on parlait de cette tension en Iran, peu en France, peu en Europe globalement, quand je regardais partout, en fait, c'est un sujet en Iran. Effectivement, comme ça a été dit, où là, c'est vraiment un sujet, c'est un sujet en Israël. Et globalement, les uns les autres ont l'impression, on en peut parler, et quand je regardais pourquoi ils en parlaient peu, on voit bien qu'ils ont l'impression que ça n'a pas changé grand-chose, que ce conflit, il y a une forme d'habitude qui s'est installée dans l'opinion, et donc en fait, ça leur semble quelque chose de très local. J'étais regardée, c'est aux États-Unis, on en parlait beaucoup, parce que c'est un sujet, ce conflit aux États-Unis, qui est quand même beaucoup traité aussi. Pas tant que ça non plus sur le sujet de l'Iran, hein, j'entends. Et donc en fait, c'est un sujet plus local et sans doute plus un sujet entre Iran et Israël, mais ça semble assez loin. Et l'opinion publique ne s'est pas lassée loin de là sur ce sujet, mais c'est pas cette tension spécifique avec l'Iran qui relance un débat particulièrement.
C'est-à-dire c'est plus globalement sur l'après 7 octobre.
Exactement, sur Gaza, sur la réalité de ce qui se passe, sur l'armement, sur le fait d'intervenir, pas intervenir. Il y a beaucoup, beaucoup de discussions, mais on aurait pu se dire que cette tension avec l'Iran allait rentrer dans les conversations. Je vois peu.
Alors, notamment le fait que les Français soient appelés à ne plus y aller. On comprend que les personnels français sur place, même s'il n'y a pas de consigne officielle de s'en aller, se pose la question. Oui. Là-dessus, non, pas
tant que ça, parce que les uns et les autres sont même étonnés en disant oui, mais la réalité, c'est que l'Iran est quand même un pays complexe. Donc,
après, les gens qui vont voyager en Iran, il y en a quand même. Les Français qui voyagent en Iran,
non, mais au Liban, par exemple.
Au Liban, oui. Le Liban, oui, c'est vrai que c'est. On a une communauté francophone assez importante là-bas, et en Israël aussi, évidemment.
Donc le Liban, ça c'est
peut-être que les intéressés justement qui ont l'habitude de ces pays savent aussi que des assassinats de hauts dignitaires iraniens dans lesquels était mêlé Israël, ça s'est déjà produit dans le passé et qu'il n'y avait pas eu d'action pour autant militaire forte de rétorsion de l'Iran vis-à-vis d'Israël. À chaque fois, effectivement, ils se vengent, mais de façon détournée, d'un point de vue économique, où ils passent par le Hezbollah. Et effectivement, ce que disait le militaire tout à l'heure est assez, il me semble, ce qu'il y a de plus probable, et en tout cas, c'est ce que disent les experts, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir des attaques ciblées sur certains points stratégiques en Israël, depuis le sud Liban. C'est ce qui se fait d'ailleurs aussi, ça s'est déjà produit d'ailleurs depuis le 7 octobre. On peut imaginer quelque chose comme ça. Mais bon.
Arnaud Bouillard, la fin.
L'Iran fait la guerre à Israël par procuration. Hein. Le colonel Pierre de Jong l'a dit tout à l'heure, avec le Hezbollah libanais, les rebelles houthistes au Yémen aussi, qui bombardent Israël et différentes milices dans la région. Là, est-ce que cet engagement direct contre Israël via des missiles balistiques ou des drones, dans lesquels l'Iran est assez expert, va advenir, c'est toute la question des jours qui viennent. Notons quand même que les États-Unis ont réaffirmé un soutien à toute épreuve à Israël en cas d'agression. Et pour le coup, dans les relations un peu compliquées que Joe Biden avait avec Benjamin Netanyahou ces dernières semaines, là, il y a à nouveau une réaffirmation des États-Unis sur leur soutien à Israël. C'est pas neutre dans le dossier.
Et c'est là où le lien doit être fait. C'est bien qu'on l'ait fait avec le 7 octobre et les suites et l'opération militaire israélienne à Gaza.
On peut juste ajouter que l'intérêt de l'Iran n'est pas forcément et certainement pas en fait d'entrer en conflit direct avec Israël.
C'est clair, bien sûr, et vous faites bien de le souligner. Maria Selpech, puisque vous avez la main, la une de Marianne cette semaine.
Eh bien, nous avons un numéro qui se concentre sur la guerre identitaire en France aujourd'hui, avec les signaux faibles, les signaux forts, Aya Nakamura, l'histoire du proviseur du lycée Ravel, etc. On revient sur tout un tas de sujets qui ont émergé ces dernières semaines. Nous revenons aussi sur les ratés de la gendarmerie, sur la mort d'Émile, le petit Émile. Et nous avons une interview de Bayrou également.
François Bayrou. L'Express, à la une, Arnaud Bouillon.
C'est un dossier sur l'ONU qui s'intitule ONUL. Ce dossier interroge la manière dont l'Organisation des Nations Unies est censée pacifier le monde depuis sa création. Ces dernières années, c'est dévoyé et noyauté et sert aujourd'hui de ring en fait entre les démocraties et les régimes autoritaires.
Je vais rappeler votre livre aussi, Véronique Ressout, à lire absolument. Oui, c'est dans toutes les bonnes librairies. L'ultime pouvoir, la face cachée des réseaux sociaux. C'est aux éditions du CERF. Merci beaucoup à tous les trois. Demain, les informés, c'est à 20h avec Benjamin Fontaine, tout le week-end d'ailleurs. Et nous, on sera là lundi. Bonne soirée.